Et on débute par le journal de Maxime Fayol. Bonjour Maxime.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Après 3 jours de sommet, c'est l'heure du bilan pour les chefs d'État et de gouvernement du G7. Emmanuel Macron s'est exprimé hier au journal de 20h de France 2. Le chef d'État vante un G7 réussi. Pourtant, des zones d'ombre existent, que ce soit sur la taxe GAFA avec les États-Unis ou encore sur l'Amazonie.
Autre dossier qui n'a pas connu d'inflexion, celui du Brexit, toujours fixé au 31 octobre. L'opposition travailliste, menée par Jeremy Corbyn, va tenter de lancer une motion de défiance pour essayer de trouver un accord avec l'Union européenne et renverser Boris Johnson.
En France, le magazine 60 millions de consommateurs crie haro sur les produits ménagers, trop de substances toxiques et surtout aucun étiquetage correct. Elle demande un système de notation sur ces produits pour connaître la dangerosité de certains composants. Et dans une dizaine de minutes, Guillaume, la question du jour.
PMA pour toutes, faut-il inscrire 2 mères sur l'état civil? On posera la question à Victor Deschamps, il est docteur en droit.
Emmanuel Macron a donc assuré le service après-vente du G7 hier au journal télévisé de France 2. Le chef de l'État voulait un G7 utile, il s'agit selon lui d'une réussite. Les différents protagonistes ont, il est vrai, affiché une unité un peu plus visible que lors du dernier sommet du genre au Canada. Et même si des divergences existent toujours, Rosalie Lafarge, le président français a voulu se concentrer sur le positif.
Emmanuel Macron avait prévenu avant même le début du G7, nous ne réussirons pas sur tout, confirmation du président hier soir.
On n'a pas tout réussi, mais je pense qu'on a fait œuvre utile pour nous, pour l'Europe et pour l'international.
À l'international, d'abord cet épineux dossier iranien, le président en a surpris plus d'un en faisant venir plus ou moins à l'improviste le ministre des Affaires étrangères de l'Iran pendant ce G7.
C'est pas un coup de poker, c'est le rôle de la France qui essaie de faire des médiations. Donc on a essayé. Et on a réussi à franchir une étape importante dans ce G7 sur le sujet de la crise iranienne.
Des avancées dans le dossier iranien, des signaux positifs pour apaiser les tensions commerciales, des engagements concrets aussi vis-à-vis de la crise en Amazonie.
On mobilise 20 millions d'euros pour aider tous les États qui sont en train d'avoir la forêt qui brûle. Et la deuxième chose, on met en place au moins 30 millions, et ça on va le finaliser dans quelques semaines à New York quand on sera à l'Assemblée Générale des Nations Unies, pour aider à faire la reforestation, à développer l'agroécologie, c'est-à-dire tout ce qui permet de créer de l'activité économique en étant respectueux de la planète.
Emmanuel Macron assure le service après-vente du sommet se voulant très pédagogue et défendant l'idée d'un G7 utile.
Ces sommets ne fonctionnent pas lorsqu'on n'a pas de vraie discussion, lorsqu'on annonce des notes préparées par d'autres, lorsqu'on évite les problèmes. Là, je crois pouvoir dire qu'on a parlé de tout avec beaucoup de liberté. On s'est parfois mis d'accord, d'autres fois non, mais ça a une utilité.
Et à l'issue de ce G7, pas de long communiqué final, comme d'habitude, simplement une déclaration d'une page qui recense une série de grands principes, un texte succinct sans un mot sur le climat, pourtant érigé au départ en priorité de ce sommet par le président.
Rosalie Lafarge, le mot climat a en revanche été beaucoup entendu à l'occasion de ces incendies en Amazonie, on en parlait. Emmanuel Macron, et vous l'avez entendu, et les autres membres du G7 ont mobilisé 20 millions de dollars pour lutter contre ces incendies. Une offre refusée cette nuit par le gouvernement brésilien. Nous remercions le G7 pour son offre, mais ses moyens seront peut-être plus pertinents pour la reforestation de l'Europe, déclare le chef du cabinet du président Jair Bolsonaro. C'est peut-être là finalement le plus gros point de tension de ce G7 face à un pays absent de cette réunion, le Brésil. Les points de discorde sont nombreux entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro, le président brésilien qui a même attaqué la femme du chef de l'État sur les réseaux sociaux. Conséquence directe ou non, Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il ne signerait pas le texte de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Ce n'est pas moi qui ai changé, c'est Bolsonaro qui n'a pas respecté sa parole, estime le président français qui souhaite préserver l'agriculture et le climat. Ce G7 a également permis de trouver une solution entre la France et les États-Unis sur la taxe des géants du numérique, la fameuse taxe GAFA. La France a mis en place une taxe de 3% du chiffre d'affaires des Facebook, Apple, Google ou encore Amazon. La manœuvre a été qualifiée de grossière erreur par Donald Trump qui voulait même taxer les vins français en représailles. Il n'en sera rien avec cet accord trouvé à l'issue de ce G7. La France va finalement retirer sa taxe si les pays de l'OCDE s'entendent sur une taxation internationale des GAFA l'an prochain. Une opération que la France pourrait payer cher car si cette taxe est inférieure à celle qui est en vigueur aujourd'hui, elle devra rembourser les géants du numérique. L'annonce soulage en revanche les représentants du secteur en France. Benoît Dard est administrateur de Syntec Numérique, un syndicat professionnel qui compte 2000 membres de la start-up à la grande entreprise.
On sera satisfait une fois que ça ira complètement au bout, mais en première lecture du compromis tel qu'il est proposé, il nous semble vraiment aller dans le bon sens. On appelle nos voeux à ce que ces accords de taxation soient faits au niveau de l'OCDE Et aujourd'hui, le compromis propose en fait de s'aligner sur ce que proposera l'OCDE à la mi-octobre. Ce qui est important, c'est que ça bouge, qu'on arrive à un accord international avec l'OCDE, qu'on arrive du coup à avoir quelque chose d'assez stable au niveau mondial pour pouvoir avoir des acteurs qui sont sur un pied d'égalité. Les entreprises françaises n'étaient pas avantagées à avoir une taxation nationale française, puisqu'elles pouvaient à un moment donné avoir sur leurs assiettes une double fiscalité qui s'imposait à elles. Et donc ça pouvait constituer effectivement un handicap de compétitivité. Et du coup, on orientait effectivement à aller chercher plutôt un accord auprès de l'OCDE, et donc globalement l'issue qui est proposée, même s'il va falloir suivre son exécution jusqu'au bout, nous semble aller clairement dans le bon sens.
Benoît Dard de Syntec Numérique avec Anne-Laure Jumet. Les États-Unis et la France main dans la main sur ce sujet de la taxe GAFA. Cela n'avait rien d'évident au début de ce G7, ni même après les premières heures du sommet où Emmanuel Macron et Donald Trump ont affiché quelques divergences. Finalement, à la fin du bal, les présidents français et américains se quittent sur une entente retrouvée. Cordialité affichée lors d'une conférence de presse commune hier où chacun s'est remercié. Donald Trump qualifiant même le sommet comme couronné de succès. Une déclaration qui tranche avec les tweets post-G7. L'an passé, le président américain avait même refusé de signer la déclaration commune. Selon le géopolitologue Dominique Moïssi, il pourrait s'agir d'une tactique de Donald Trump pour façonner sa stature d'homme d'État à quelques mois de la présidentielle américaine.
Je crois qu'il y a des considérations de politique intérieure du côté américain. Le président Trump se sent un petit peu menacé, contrairement à ce qu'il dit aux États-Unis. Les sondages ne sont pas bons pour l'essentiel. Et il se dit qu'il est important, avant que la campagne ne commence réellement, qu'il apparaisse comme un chef d'État responsable afin de déstabiliser un peu plus le Parti démocrate. Donc je crois qu'il y a cette dimension de politique intérieure américaine. Et puis il y a quand même la peur d'une récession qui serait le produit d'une dégradation de la situation géopolitique et économique mondiale. Donc la peur du lendemain pousse les êtres parfois à se montrer plus responsables. En fait, il voulait sortir de l'isolement dans lequel il s'était placé lui-même par ses tweets et par ses déclarations intempestives.
Le géopolitologue Dominique Moïssi, conseiller spécial à l'Institut Montaigne avec Stanislas Vazak dans le journal de 22h hier soir. Interview complète à retrouver sur franceculture.fr. Les États-Unis qui continuent leurs négociations avec les talibans en Afghanistan. Les derniers points de l'accord restent à finaliser, explique le porte-parole des talibans. Ils portent sur le retrait de plus de 13 000 soldats américains du pays. En échange, les talibans s'engagent à ce que les territoires qu'ils contrôlent ne soient plus utilisé par des organisations terroristes. L'accord est espéré par Washington avant le 1er septembre.
Allez, 7h08 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Maxime Fayolle. En Italie, un accord sur un gouvernement de coalition se rapproche.
L'hypothèse se renforce sur un accord entre le Parti démocrate de centre-gauche et le mouvement 5 étoiles. Un exécutif jaune-rouge, comme le surnomment les médias, pourra donc voir le jour. L'exigence des 5 étoiles est de placer à nouveau Giuseppe Conte en position de président du Conseil, lui qui a démissionné il y a seulement quelques jours. Une coalition qui serait un retournement, selon Matteo Salvini, le leader de la Ligue qui a fait alliance pendant 14 mois avec le mouvement 5 étoiles. Au Royaume-Uni, Jeremy Corbyn veut faire chuter Boris Johnson, le chef de file des travaillistes, va chercher à rassembler toute l'opposition afin de lancer une motion de défiance. L'objectif, c'est de retarder le Brexit prévu au 31 octobre. Le problème, Antoine Gignot, c'est que Jeremy Corbyn manque cruellement de soutien et de toutes parts.
Même ses partisans le disent, Corbyn est devenu toxique. Adam, jeune militant travailliste, a voté pour lui il y a 2 ans, mais il a du mal à l'imaginer Premier ministre.
C'est un homme politique avec des principes, avec des idées fortes. Mais malheureusement, il n'a plus de soutien au Parlement.
Car Jeremy Corbyn reste une personnalité qui divise, perçue par les uns comme un gauchiste radical, par les autres comme un eurosceptique un peu mou. Il a trop tardé à s'opposer au Brexit, explique Rick, 24 ans.
Il reste méfiant vis-à-vis de l'Union européenne et ça joue contre lui. Il n'a jamais dit clairement quelle était sa position.
Cette ambiguïté, c'est ce que lui reproche aussi Joe Swinson, chef des libéraux démocrates. Elle ne participera pas à la réunion d'aujourd'hui.
C'est absolument impossible qu'il arrive à rassembler les conservateurs rebelles et les indépendants pour arrêter Boris Johnson. Ce n'est même pas sûr qu'il arrive à obtenir le vote de tous les députés travaillistes. Il nous faut quelqu'un pour prendre la tête d'un gouvernement de crise, quelqu'un qui ait une longue expérience au Parlement et qui soit respecté par tous.
Quelqu'un qui pourrait ressembler à Ken Clark, explique désormais plusieurs dizaines de députés, le doyen de l'Assemblée, conservateur, opposant au Brexit, a de plus en plus de soutien.
Les explications à Londres du correspondant de France Culture, Antoine Gignot. En France, le magazine 60 millions de consommateurs demande un peu plus de transparence sur les produits ménagers. Dans son numéro paru aujourd'hui, le magazine demande un étiquetage afin de connaître la dangerosité de certains composants de ces produits. Les explications de Benjamin Dourier, il est rédacteur en chef adjoint de la revue.
Le problème des produits d'entretien de la maison, c'est que c'est compliqué pour le consommateur de s'y retrouver et de savoir, à partir des informations disponibles sur l'emballage, si le produit est nocif pour la santé ou l'environnement. D'abord, la liste des ingrédients sur les produits d'entretien, elle est incomplète. Si on veut la liste complète, il faut se rendre en ligne. Les fabricants sont obligés de la mettre à disposition, mais encore faut-il trouver cette liste complète. Et même si on l'a, c'est assez compliqué, pour pas dire impossible, pour le consommateur moyen comme vous et moi, de savoir que tel ingrédient qui a un nom très compliqué va être susceptible de causer des maladies de la peau par contact, que tel autre est soupçonné d'être perturbateur endocrinien ou que tel autre est soupçonné d'être cancérogène. Donc effectivement, on a besoin, c'est ce qu'on défend à 60 millions de consommateurs, d'un étiquetage simplifié, un peu comme le Nutri-Score qui commence à se répandre en matière de produits alimentaires. Nous, on propose le Ménage-Score pour ces produits d'entretien. Ça permet de les classer de A pour les produits les plus vertueux jusqu'à E pour les produits qui présentent le plus d'ingrédients à risque. Avec un code couleur, les produits bien notés, classés A notamment, sont en vert et ceux classés E sont en rouge pour s'y retrouver de façon simple et rapide pour le consommateur.
Benjamin Dourier de 60 millions de consommateurs avec Hugo Charpentier. Le temps de ce mardi, il est marqué par des orages sur la façade atlantique, des brouillards un peu partout en France au lever du jour. Un soleil franc sur la Côte d'Azur mais aussi sur les Ardennes. Les températures minimales ce matin de 16 à 21 degrés, Guillaume Erner.
Merci beaucoup Maxime Fayolle.